Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts pour la bagarre?
C'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant? Non, parce que l'hippopotame, c'est quand même très très fort.
Messieurs, bienvenue au Fight Club.
Pas de combat, pas d'entourloupe, je veux un combat propre, c'est compris?
Bienvenue dans C'est qui le plus fort, le podcast qui revient chaque semaine pour trancher les rivalités les plus importantes. Et aujourd'hui, on se penche sur un duel cher au cœur de nombre de cinéphiles, puisqu'on va assister au combat entre les deux géants de l'animation par ordinateur de Hollywood, Pixar et DreamWorks Animation. Je suis Martin Gamara, et pour trancher cette rivalité, j'accueille à nouveau Aurélie. Bonjour Aurélie.
Salut Martin.
Comment vas-tu?
Bah très bien. Merci.
Pourquoi est-ce que tu as eu envie de mettre en scène cet affrontement-là?
Écoute, je sais pas trop. C'est une idée qui m'est venue. Je cherchais un peu deux figures difficiles à départager et deux figures de poids dans leur domaine. Et je me suis dit, bah, Pixar et DreamWorks. Mais à la base, je suis pas super fan d'animation. Mais du coup, en préparant le podcast, je me suis un peu replongée dans des dessins animés. J'ai découvert des nouveaux animés que je connaissais pas. Et ça m'a donné envie de revoir plein de trucs. Donc c'était chouette.
Très bien. Bah, vu tout ce qu'on va brasser aujourd'hui, je pense qu'il y a des chances que, après nous avoir enregistré l'épisode ou les auditeurs après l'avoir écouté, que ça donne envie de voir ou revoir tout un tas de chefs-d'œuvre.
Ouais, on va évoquer des films vraiment très sympas, je pense.
Ouais. Avant de démarrer, est-ce que tu peux nous rappeler qui est qui ?
Alors, Pixar, donc, c'est un studio d'animation qui a été fondé dans les années 80, en 1982, précisément par un dénommé John Lasseter. Il travaillait chez Disney et il se passionnait pour le numérique dans les animés, mais à l'époque ça plaisait pas trop à Disney, donc il a été tout simplement licencié. Et il a travaillé pour Lucasfilm après, et il s'est spécialisé un peu donc dans l'animation, les effets spéciaux. En 86, cette boîte qui s'appelait donc Lucasfilm Computer Graphics a été rachetée par Steve Jobs et est devenue Pixar. En 2006, Disney a racheté Pixar. Et donc maintenant, c'est tel qu'on le connaît, Disney Pixar.
Ok.
Et puis DreamWorks, ça a 25 ans, donc c'est beaucoup plus jeune. Ça a été fondé en 94, comme moi. Enfin, on a le même âge du coup. Par trois gros monstres du cinéma, dont Steven Spielberg. Donc Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg et David Geffen. David Geffen qui avait déjà un studio, un label de musique. Ouais. Et en fait, DreamWorks, c'est DreamWorks SKG. Du coup, pour les initiales de ces trois fondateurs, d'accord, on oublie tout le temps le SKG, mais
okay,
j'ai découvert ça aussi. Et ils ont été rachetés en 2016, eux, par une filiale d'Universal. Donc aujourd'hui, ils distribuent les films Universal. Enfin, ils sont ensemble.
Okay.
Et tous les deux sont les deux plus gros distributeur de films d'animation, même s'il y en a d'autres, bah, tu seras d'accord avec moi, c'est vraiment les deux qui valent d'être mis en rapport par leur poids dans le milieu.
Bah oui. Là on se fait ce focus sur ces deux-là parce qu'ils trustent le marché de l'animation de synthèse. Mais
même s'il y en a d'autres qui sont intéressants aussi.
Bah oui, bon après il y a les Disney non Pixar qui prennent aussi beaucoup de poids. Il y a ce qui se fait, il y a beaucoup de choses qui viennent du Japon, et puis après il y a quelques irréductibles gaulois comme Illumination ou d'autres, mais c'est vrai que avec ces deux-là on a
Illumination, ils vont grandir, j'imagine. En tout cas ils sont sur une bonne lancée, mais ouais, bon, c'est tellement récent encore qu'ils peuvent pas être comparés à Pixar et DreamWorks.
Non. Eh ben, si vous connaissez l'émission, vous savez que nous allons avoir 5 rounds pour autant de critères qu'on va utiliser pour les départager. Si vous le savez pas, ben maintenant vous le savez. Et puis voilà, on se lance.
Pour tous ceux qui se sont déjà demandé ce que peuvent bien faire les jouets quand personne ne les regarde.
En avant les amis, que la fête commence!
Walt Disney Pictures vous invite dans un monde où les jouets prendront vie.
Alors, premier round, qui a eu le plus de succès commercial, qui a fait le plus de box-office?
Alors, je suis tombée sur un classement très intéressant qui classe les films d'animation qui ont le plus rapporté. Donc, pour rentrer dans ce classement, déjà, il faut rapporter plus de 200 millions de dollars de recettes.
Par film?
Par film, oui, bien sûr. Évidemment, DreamWorks et Pixar font partie de ce classement. C'est Disney-Pixar qui arrive le plus haut avec la 3e place. Est-ce que tu pourrais deviner pour quel film?
Toy Story?
Et non, ça m'a surprise aussi, mais c'est Les Indestructibles 2.
Bah oui.
Même
oui.
Pas le 1, le 2.
Ouais. Gros carton, hein. Grosse attente sur Les Indestructibles 2.
Qui a quand même rapporté 1 242 513 600 dollars précisément. Et DreamWorks arrive sa plus haute place, c'est la 13e place, donc quand même 10 places en dessous, avec Shrek 2, qui est sorti en 2004 et qui a rapporté 919 838 758 dollars de recettes.
Ce qui est pas mal, mais moins bien.
Moins bien quand même. Après, j'ai fait des petites statistiques. Donc Disney Pixar, il apparaît 19 fois dans le classement sur 91 films en tout. Donc il y a notamment évidemment en très bien placé Toy Story 3 et 4, mais on retrouve Le Monde de Dory qui est numéro 8, Le Monde de Nemo, vice-versa, Monstre Academy là-haut, enfin tous les gros succès. Ce qui fait qu'avec leurs 19 occurrences, c'est 90% de leurs films qui ont rapporté plus de 200 millions de dollars. Donc c'est quand même une machine à succès, Disney Pixar. On va le voir aussi par la suite, mais c'est ouais. Une usine qui tourne bien.
À l'image de la maison mère.
Ouais. Et DreamWorks, eux, ils apparaissent 23 fois dans le classement pour 37 films sortis en tout. Donc là, ça fait que 62% de leurs films qui ont ramené plus de 200 millions.
Oh, la honte.
Et là, on retrouve évidemment tous les Shrek, Madagascar, Kung Fu Panda, mais aussi Chicken Run.
Oui, alors j'ai été le premier surpris qu'il y ait des films de Hardman qui apparaissent avec DreamWorks. Je savais pas que Chicken Run, Souris City et le premier Wallace et Gromit,
ouais, le mystère du lapin-garou,
ont été des coprods avec DreamWorks.
Bah ça a bien été DreamWorks.
Ouais, je pense que
on
ça
le
a bien.
On verra aussi pour ouais. Les autres catégories.
Ouais, ouais. Donc les films de Pixar ont eu plus de succès au box-office que les films de DreamWorks Animation. C'est assez clair. Maintenant, pour aller un peu plus loin que le succès en box-office...
Ouais, j'ai un chiffre qui est assez étonnant par rapport à ce qu'on vient de dire, mais je sens que tu as la réponse. C'est qu'en 2011, si on compare les recettes des deux studios, les recettes mondiales, DreamWorks, leur recette mondiale, c'est 9,4 milliards de dollars, et Pixar, pour la même année, 7,2 milliards de dollars, donc il y a quand même une sacrée différence,
ouais.
Malgré... les films de Pixar qui rapportent plus.
Ouais. Alors, il y a deux choses importantes par rapport à ça. C'est que j'ai pas calculé, mais il est possible que DreamWorks sorte plus de choses au cinéma, qu'ils sortent aussi probablement plus de suites directes en vidéo, en DVD, enfin en DVD, en vidéo avant que tant que le support existait. Bon, maintenant le marché du DVD, ça existe quasiment plus. Et puis le dernier point, bah, c'est on va y consacrer un chapitre entier, mais c'est la télé.
Je viens d'y penser, mais en fait ouais. 2011, c'est l'année où DreamWorks et Netflix se sont associés.
Ouais, tout à fait. Donc DreamWorks a une politique de développement de contenu pour la télé que n'a pas Pixar, pour d'autres raisons aussi. Hein, c'est parce que cette partie-là, elle est laissée à Disney. Ce qui fait que l'écart que tu as mentionné, c'est même encore plus creusé. Alors, sur le site Holler, qui est un site d'information sur l'information financière sur les entreprises, on annonce un chiffre d'affaires annuel moyen de 487 millions pour Pixar, contre 990 millions pour DreamWorks. Et c'est pas forcément étonnant puisque DreamWorks produit énormément pour la télé. Mais on y reviendra. Donc, surprise. Parce que bon, on s'attendait tous un peu à une exécution en règle de DreamWorks par Pixar, mais finalement DreamWorks marque le premier point.
Ouais, le premier point.
À la surprise générale.
Avant qu'on passe au point suivant, ouais. J'en profite pour glisser une petite anecdote. C'est que en 2007 sort le film Pixar Ratatouille. Eh bien, c'est la production Pixar qui a été la plus rentable. Voilà.
C'est parce qu'il a été tourné à Paris, c'est pour ça.
Il a été tourné à Paris, c'est ça.
Du coup, c'était moins cher.
Peut-être que je devrais renoncer et retourner faire des nouilles.
Renoncer, ne pas renoncer. Des nouilles, pas de nouilles. Tu t'en fais trop avec ce qui était et ce qui sera. Comme le dit le proverbe, hier est l'histoire, demain est un mystère, mais aujourd'hui est un cadeau. C'est pourquoi ça s'appelle le présent.
Alors, après les gros sous, on a envie de savoir qui a été le plus créatif entre ces deux géants.
Et là, on a plusieurs points de comparaison.
Ouais.
Donc le premier, qui a été le plus précurseur en technologie d'animation?
Ouais.
Alors, on va commencer par DreamWorks. Donc eux, ils font que de la publication 3D maintenant. Ils ont arrêté en 2003 les dessins et les animés en 2D, ouais, comme on pouvait les connaître avant. Les derniers, c'est Sinbad et Spirit. Et ils développent DreamWorks une technologie qui s'appelle Emotion. Ça s'écrit en majuscule E-M-O et en minuscule Shun.
D'accord.
Emotion.
Ok.
Et en fait, c'est un logiciel qui leur permet d'accentuer les émotions et les sentiments de manière visible de leurs personnages et donc de mieux les contrôler. Donc c'est eux qui ont développé ce système et ils ont reçu une récompense spéciale de l'Académie des arts et des sciences du cinéma pour cette technique qui est,
d'accord,
considérée comme une prouesse dans le milieu.
Okay.
Mais Pixar, il est souvent qualifié par de studio le plus innovant par la presse, notamment par la revue des médias. Et il faut savoir qu'à l'origine, Pixar, c'était de toute façon un prestataire spécialisé dans l'animation et dans les effets spéciaux. Un des premiers films sur lequel Pixar a travaillé, c'était Star Trek. Et en fait, ils ont leur propre pôle de recherche et ils développent leurs propres outils et solutions techniques logicielles pour l'animation. Ça s'appelle Renderman, donc c'est une filiale de Pixar. Et ils vendent du coup ce qu'ils développent, ils l'utilisent bien sûr, et ils vendent aussi à d'autres studios ce qu'ils développent. Et en fait, ce pôle-là, ça leur permet du coup d'attirer plein de spécialistes et de techniciens qui veulent travailler dans l'animation. Donc c'est vrai qu'ils sont considérés souvent comme plus innovants que DreamWorks ou que d'autres studios, tout simplement parce qu'ils font de la recherche vraiment développée, alors que DreamWorks, eux, ils ont développé une seule technologie.
Et puis, là, on parle de ça maintenant en 2019, mais quand on parle de cinéma d'animation en images de synthèse, c'était Pixar qui avait frappé le premier, puisque... Si je ne me trompe pas, Toy Story était le premier long-métrage intégralement en animation de synthèse.
Tout à fait, il est sorti en novembre 1995. Et le premier film de DreamWorks, qui s'appelle Fourmis, ou Ant en anglais, est sorti en 1998. La même année que Mille et une pattes pour Pixar, du coup.
Ouais, ouais. Oui, c'était chelou d'ailleurs ce battle de films d'insectes.
C'est pas la seule fois où il y a des trucs qui sont sortis à peu près les mêmes années, qui sont très similaires.
Et d'ailleurs, l'un comme l'autre sont pas mémorables. Enfin,
j'ai un avis personnel. J'ai pas vu Ants, mais Mille et une pattes, quand c'est sorti ou quand moi j'avais l'âge de le regarder, j'ai un souvenir que vraiment c'était culte pour tout le monde.
Ah ouais. Bon, après, c'est subjectif. Hein. Ok, donc d'un point de vue technologique, on est sur du gros niveau dans les deux cas, mais
ouais.
mais quand même Pixar est meilleur. La créativité, c'est pas que la technique. Alors on pourrait parler du management chez Pixar aussi, qui est complètement tourné vers la créativité. Il y a un bouquin d'ailleurs qui parle de ça. Bon, je l'ai pas lu, mais j'ai un copain qui m'en avait fait un bon résumé. Je le salue d'ailleurs s'il nous écoute. Mais ce qu'on voudrait savoir, c'est qui a inventé le plus de personnages, en fait, dans le sens où qui s'est le moins reposé sur des suites et sur l'exploitation de franchises déjà établies.
Oui, et d'ailleurs, on le voit aussi avec le rythme de sortie annuelle. Pixar, ils prennent beaucoup plus le temps de travailler sur leurs univers et sur leur création. C'est une sortie par an ou moins, en général à la date de Noël. Et DreamWorks, c'est deux sorties par an. C'est aussi peut-être ce qui peut expliquer la différence entre les deux chiffres d'affaires.
Ouais. Et puis donc, oui, la capacité de Pixar à inventer des nouvelles choses à chaque fois, parce qu'ils ont plus de temps.
Et des univers qui sont vraiment inédits, vice-versa. C'était une invention complète. Il n'y a rien qui ressemble à ça dans la nature, c'est une invention totale. Alors que par exemple, Madagascar, même s'ils ont inventé des personnages super drôles, l'univers, ça reste la jungle.
Oui.
Et d'ailleurs, DreamWorks, ça aussi, ça montre peut-être que Pixar est plus inventif. DreamWorks, ils castent des grosses stars en général pour faire les voix. Eddie Murphy, par exemple, Cameron Diaz, voilà, c'est les deux seuls noms qui me viennent. Mais
il y en a plein.
Il y a des grosses stars qui ont donné leur voix aux personnages de DreamWorks, à tel point que DreamWorks, parfois, donne les traits de ces personnages, les traits des acteurs à ces personnages. Par exemple, Angelina Jolie, elle a doublé un personnage dans Gang de requins. Et le poisson qui est dessiné a un peu une bouche pulpeuse comme Angelina Jolie.
Me dis pas que c'est un mérou, quand même.
Non. Le lion de Madagascar aussi, c'est Ben Stiller qui fait la voix. Et du coup, le lion ressemble un peu, évidemment un petit peu, à Ben Stiller. Donc le D'accord. caractère et en même temps les traits physiques ont été inspirés de Ben Stiller. Et ils font ça sur pas mal de personnages.
D'accord. Effectivement, Pixar embauche des voix moins high level pour ses films. Le plus connu, c'est Tom Hanks qui fait Woody dans Toy Story. Mais après, les autres sont moins high profile. En fait, c'est plus dans les VF où on retrouve un peu de la star. je crois que c'est je sais plus ce qu'on a en français. On a du Guillaume Canet, je crois. On a du il y avait Jacques Balutin avant qui faisait le chien dans Toy Story. Bref. Enfin bon. Donc.
Et c'est vraiment très très régulier. Il y a Woody Allen qui a doublé pour DreamWorks aussi.
Ah, ok. Bon, je pense que la créativité chez Pixar, tu peux pas tester.
Ouais,
donc
c'est
forcément,
clair.
C'est Pixar qui marque ce point-là.
Donc, ça énorme fait... point.
Énorme
sans,
point.
Ouais, sans hésiter, énorme point à Pixar.
Ouais. Donc ça fait un partout.
Même si on retient quand même des belles inventions de DreamWorks. Bon, c'était avec Aardman, mais énorme coup de cœur pour Kung Fu Panda. J'ai quand même pas envie qu'on oublie que... Non, pour Kung Fu Panda, n'importe quoi. Énorme coup de cœur pour Chicken Run. J'ai pas envie qu'on oublie que ça a été produit par DreamWorks.
Ouais.
Même.
Oh, ça y est, j'ai flairé la trace de l'oiseau. Attends. Et ça, qu'est-ce que c'est? Du chocolat. Ça sent le chocolat.
Moi, j'ai du pruneau par ici et du fixateur pour dentier. Qui sent-ils?
Là, je sens que le maître va pas être content et on n'aura pas de surprise. On ferait mieux de lui dire que quelqu'un a pris l'oiseau, pas vrai, Alpha?
Non. Dans l'eau filet, l'oiseau ne saurait tarder à tomber. Suivez ces traces, mes braves, et vous verrez que le maître saura récompenser vos efforts comme il se doit.
Alpha, il doit y avoir un problème avec ton collier. T'as dû le cogner?
Ouais, t'as une drôle de voix.
Alors, on a voulu s'intéresser à un point un peu spécifique, c'est la télévision. Parce que là, on est sur deux approches quand même complètement différentes. Alors là, il n'y a pas de suspense, hein. DreamWorks va gagner ce point-là
largement
par forfait en fin de compte,
ouais,
puisque Pixar est quasiment absent de la télévision alors que DreamWorks est hyper présent. Bon, vous savez déjà que c'est DreamWorks qui marque ce point-là, mais tu vas quand même nous expliquer un peu pourquoi et comment.
J'ai pas le chiffre exact du nombre de séries DreamWorks, mais déjà, c'est assez énorme, sachant qu'il y a 10 séries qui ont donné des films, ou inversement des films qui ont donné des séries. Ouais. Sachant qu'il y a en plus des trucs qui n'ont pas été adaptés encore en film, ou qui ne le seront pas, mais qui existent déjà en série. Comme on le disait tout à l'heure, en 2011, DreamWorks s'est associé avec Netflix.
Ouais.
Donc maintenant, pratiquement toutes leurs séries sont distribuées sur Netflix. Comme ça, si vous voulez regarder, vous savez. Il y a notamment, dans ce qui n'existe pas en film, il y a notamment un truc qui s'appelle « Les légumes de la cuisine ».
Ok, je ne connaissais pas.
Ça a l'air assez marrant. C'est en 3D du coup. Enfin,
je Google immédiatement.
Le design un peu spécifique de DreamWorks.
Ok. Un sourcil relevé, tu veux dire?
C'est ça vraiment en plus. Il y a Spirit également.
D'accord.
Ce que je ne savais pas, mais que par exemple, Oui Oui au pays des jouets, qu'on a tous regardé quand on était petit, ben c'est DreamWorks.
Ok.
Et après, dans les liens films, séries qui sont donc un peu plus connues, il y a Les Aventures du Chapeauté qui ont donné une série. Dragon qui a donné deux séries, si je ne me trompe pas.
Ouais.
Mr. Peabody et Sherman, une série aussi. Les Croods aussi. Il y a Home. Ça, je crois que c'est dans les films à venir ou dans les films très
récents.
Okay. Il me semble que ça a commencé en série d'abord.
Ok.
Trollhunters, Boss Baby, Kung Fu Panda, Trolls, Spirit, on l'a déjà dit, Capitaine Super Sleep, qui est Capitaine Underpants en anglais. Là encore, c'est une série. Il y a un spin-off de Madagascar sur les petits lémuriens. Eux aussi, ils ont leur série maintenant.
Ok, d'accord.
Donc il y a quand même, il y a vraiment énormément de choses.
Ouais.
Après, donc j'ai regardé le début de Trollhunters.
Ouais.
C'est pas mal, c'est bien fait. Je dirais pas que c'est pour les enfants, c'est plutôt
C'est plus
adolescent quand même.
C'est grands enfants.
Jeunes adolescents.
Grands enfants, à partir de 7-8 ans, ça va. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs un peu violents dedans, en fait.
Et j'ai surtout regardé Boss Baby. Et alors là, je suis tombée des nues. C'est absolument pas pour les enfants. C'est très, très bizarre. Cette série, c'est l'histoire donc d'un bébé qui est sur le terrain pour une entreprise de bébés. En fait, dans la série, les bébés sortent d'une usine. Mm. Donc, les parents reçoivent un bébé qui sort d'une usine. Le rôle du boss bébé, c'est de faire en sorte que les bébés reçoivent le plus d'amour dans le monde. Et donc, c'est assez drôle parce que ses ennemis jurés sont, par exemple, les petits chatons et les petits chiots trop mignons. Donc, il se bat contre eux. Et il est en costume et en fait, c'est des bébés qui ont des réflexions d'adultes et c'est absolument pas pour les enfants. C'est un peu dérangeant, c'est un peu drôle, mais c'est surtout pas du tout pour les enfants. Quoi.
Bah, mon fils avait vu la version ciné... parce que je crois que c'était celui-là, il a été d'abord un film et après une série, il me semble.
Ouais, il me semble.
Et il n'est pas trop kiffé, je crois.
Non, c'est très bizarre. Il y a le bébé qui explique à son grand frère, qui dans la série doit avoir, on ne sait pas trop, mais on imagine grosso modo entre 4 et 8 ans. Mm. Il lui dit business is business, tu comprends rien aux affaires. Et du coup, tout est. On en reparlera, j'imagine, dans le point suivant, mais toutes les valeurs qu'on est censé retrouver dans un dessin animé et qui sont transmises aux enfants, la famille, le partage, dans Boss Baby c'est tout l'inverse, c'est le capitalisme poussé à l'extrême dans le scénario. Enfin, j'ai vraiment été hyper 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 surprise. Je m'attendais à un truc pour enfants, voire pour jeunes enfants, et c'est pas du tout ce sur quoi je suis tombée.
Moi je vais en placer une sur la série du Chapeauté. Déjà le Chapeauté de base, la version long métrage, je la trouve plutôt, plutôt sympa. Et la version série est excellente en fait, bizarrement. C'est hyper bien écrit. Il y a 5 saisons, il y a un début, une fin et une fin qui est vraiment émouvante. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'ils ont le personnage du Chapeauté est super bien écrit, parce que c'est vraiment un anti-héros, dans le sens où il est censé être le héros protecteur de son village contre toutes les menaces extérieures. Mais en fait, il n'arrive jamais à rien résoudre par ses talents de héros. C'est plutôt il y arrive plutôt en général en devenant copain avec ses ennemis, quoi. Ou en réglant.
On retrouve un peu le côté fun qu'il avait dans les films de Shrek,
ouais,
où.
Complètement.
Où il rate un peu tout, il est pas
ouais,
très adroit.
Exactement. Et donc à chaque fois, il règle le problème en aidant finalement son ennemi qui n'est qu'une personne malheureuse. Et il y a tout un tas de caractères, de personnages secondaires qui sont bien écrits, qui sont rigolos. Et au fil des épisodes, cette galerie de personnages s'agrandit et c'est vraiment vraiment bien. J'ai été très surpris. En plus, il y a des références super drôles. Il y a un épisode où il y a une référence énorme à Predator, donc ça m'a bien fait rire. Je pense qu'aucun enfant ne pouvait la saisir, mais moi ça m'a fait marrer.
Mais c'est marrant que tu dis ça parce que j'ai l'impression que les films DreamWorks ou les séries DreamWorks sont beaucoup plus à double niveau de lecture que les Pixar.
Alors, effectivement, DreamWorks a tendance à, dans ses films, à mettre plus d'humour qui peut être perçu uniquement par les parents et pas forcément par les enfants, enfin les parents ou les adultes. Là où Pixar, mais on va en reparler après, fait le pari plutôt de ne pas faire de référence à part à leur propre univers. Donc ça, c'est des trucs qui reviennent parfois où il va y avoir des easter eggs, comme on dit en anglais, dans des films les uns pour les autres. Par exemple, Dinoco, la marque qu'on voit dans Cars qui va apparaître dans Toy Story ou ce genre de trucs. Et ils font pas de... Pixar fait des films qui peuvent plaire aux grands et aux enfants, mais pas par l'humour ou pas par les références. Et effectivement, Shrek, c'est un nid à références, quoi. Il y a des références,
ouais,
à
Gogo. Je pense qu'on
ne
regarde
Gogo,
pas du tout pareil.
Alien, Spider-Man,
à 10 ans qu'à 20 ans, c'est sûr.
Madonna, enfin bref, voilà. Enfin bon, donc du coup...
J'ai le sentiment qu'en termes de série, même si DreamWorks gagne évidemment, j'ai le sentiment que ça peut être très variable d'une série à l'autre.
En termes de qualité, tu veux dire ?
En termes de qualité de
scénario,
en tout cas.
Alors, Trollhunter, c'est un gros coup pour Netflix et pour DreamWorks, puisque ça a été produit par Guillermo del Toro, qui avait déjà produit Le Chapoté, d'ailleurs. La version film du Chapoté, et aussi Les 5 Légendes, je crois, pour DreamWorks. Donc, c'était un grand nom qu'ils ont attiré, ils ont produit ça. C'est assez ambitieux sur l'univers que ça veut dépeindre. Après, bon, moi perso, je suis pas fan. Mais.
Les deux premiers épisodes sont
après,
assez alléchants.
Oui, non, mais après, c'est très subjectif. Hein. Mais je trouve qu'il y a un peu un décalage entre les ambitions et les résultats. Mais bon. Ouais.
Mais par exemple, Kung Fu Panda, donc ils en ont fait une série aussi.
Ouais.
Qui s'appelle Les pattes du destin.
Ouais.
Franchement, ça a l'air. Ça a vraiment pas l'air fou. Fin...
Non, il y a beaucoup de trucs qui sont pas hyper intéressants. Même la version série de Dragon, c'est pas passionnant, alors que j'adore Dragon version long métrage. En série, c'est pas hyper, hyper intéressant, même si on est content de retrouver les personnages, si on aime l'univers. Bon, après, là-dessus, donc pour être tout à fait complet. Dans le duel du jour, DreamWorks gagne par forfait, comme on disait. Néanmoins, si Pixar fait pas de télévision, c'est pas anodin. C'est parce que je pense que d'une part, ils misent aussi sur la rareté de ce qu'ils produisent. Ils préfèrent,
tout à fait.
Partant du principe que ce qui est rare est cher, ça va avoir plus d'impact. Et d'autre part, il y a la maison mère Disney qui s'occupe de la télé, quoi. Ouais. Donc voilà, tout est dit.
Faut vraiment qu'on travaille sur ton vol plané en solo, mon grand.
Croque-mou.
Eh ben, bébé Boud.
Alors tiens, prends ça. Alors, on fait moi le malin. Ouais, c'est ça, tu ferais jamais de mal à un unisorbe.
Ça, c'est Burke. Ici, la vie est géniale. Avant, les dragons nous posaient quelques petits problèmes. Mais aujourd'hui, ils sont venus vivre avec nous.
Je t'ai dit à quel point t'es belle aujourd'hui ? Non, c'est vrai ?
Et depuis que les Vikings chevauchent des dragons, le monde est devenu encore plus vaste.
C'est trop génial !
Qui l'eût cru ? Il y a 2-1 pour DreamWorks. On pensait qu'ils allaient se faire hacher menu, mais finalement, ils résistent. Alors là, on va quand même rentrer un peu dans le dur et on va s'intéresser à la question des récompenses et qui en a gagné le plus.
Bah là ils vont se faire hacher pour le coup.
Non mais ça devait arriver. On sait, ouais. Ils résistent, mais on sait très bien à la fin qui c'est qui va gagner.
Mais on le disait, Pixar c'est une machine à box office, bah c'est une machine à récompenses aussi.
Ouais.
Sur 21 films, ils ont été nominés 21 fois aux Oscars. Ou alors dans plusieurs catégories, notamment meilleur scénario, meilleure chanson originale, meilleure musique. Mais si on s'en tient au meilleur film d'animation, c'est 12 nominations. Et en tout, ils ont eu 13 Oscars. Et alors, je vais vous dire tout de suite combien ils en ont eu pour le meilleur film d'animation. C'est 9 meilleurs films d'animation sur 21 films sortis en tout.
C'est pas mal.
C'est pas mal. Sur 37 films, DreamWorks... Bah, c'est 2 meilleurs films d'animation.
C'est déjà, et dont un pour Chicken Run, non, c'est ça?
Voilà, c'est Gromit, ouais.
Ouais, voilà, c'est
donc
Gromit.
Cartman, voilà, c'est Gromit, le mystère du lapin-garou.
Donc c'est 1,5 en vrai.
1,5. Ouais. Et le premier, tu veux deviner pour lequel c'était?
Mais je crois que je le sais.
C'est facile.
C'était Shrek?
Ouais, pour le premier Shrek.
Le premier Shrek.
En 2001.
Ouais, bon.
Et donc... par exemple, pour te donner un exemple pour Pixar, Ratatouille en 2007, c'est le meilleur film d'animation, mais aussi le meilleur, mais est nommé au meilleur scénario et à la meilleure musique. Là-haut, meilleur film d'animation et meilleure musique. Toy Story 3, meilleur film d'animation et meilleure chanson originale. Coco, c'est également meilleur film d'animation et meilleure chanson originale. Vice versa. Il a gagné évidemment l'Oscar du meilleur film d'animation et il a été nommé au meilleur scénario. Enfin, quand on regarde la liste, c'est pratiquement tous les films qui ont été nommés dans au moins une catégorie. Et en général, ils sont nommés dans plusieurs catégories. Et c'est pratiquement un film sur deux qui a gagné un truc.
Ouais. Ouais. C'est
donc là, il n'y a aucun doute.
Bon, après, ils ont eu aussi pas mal d'autres récompenses.
Oui, là, on parle que des Oscars.
On se base sur les Oscars parce que c'est un bon comparatif.
Bah, surtout que les Oscars, ça réunit des gens aussi qui sont pas forcément passionnés par l'animation.
Ouais, alors
c'est... Et qui récompensent tout le cinéma, donc je trouve que c'est assez universel comme récompense.
Tout à fait. Et d'ailleurs, justement, Pixar a raflé donc, un nombre impressionnant de récompenses, comme tu l'as dit. Mais on les garde quand même bien, on garde bien l'animation dans la petite boîte de l'animation, c'est-à-dire que pour moi il y a quand même il y a des Pixar qui selon moi ont largement mérité l'Oscar du meilleur film.
Après il y en a quelques-uns qui ont été nommés au meilleur film.
Ouais.
Là-haut par exemple les Toy Story 3
ont été
nommés au meilleur film.
Mais je pense que c'est pas demain la veille qu'il y aura une Palme d'Or ou un Oscar du meilleur film pour un film d'animation parce que c'est on continue quand même d'avoir une espèce de voilà.
Ouais, c'est vrai.
Les récompenses sont quand même réservées aux future films, comme on dit, au live action, pardon, et aux films avec des acteurs. Mais alors que, bon, bref, pour moi, des films, certains Pixar que je vois et que je revois et que je revois, ou des Miyazaki aussi, parce que là aussi, les Miyazaki ont. Si, je crois que Miyazaki a eu une récompense aux Oscars, il me semble, une année dans la catégorie... je ne sais plus. Enfin bref, là, on sort du sujet. Ouais,
oui, je me demande
ou
si
film
c'est
étranger.
Pas le voyage de Chihiro qui
ouais,
a gagné.
Ouais, je crois que c'est ça. Mais bref, on voit qu'on n'est quand même pas encore en mesure de donner des récompenses sérieuses à de l'animation, alors que...
Ouais, c'est le voyage de Chihiro en 2003.
Ouais, qui avait eu quoi, le Oscar
meilleur film d'animation.
Ouais, ouais. Et bon, bref, ça c'est une aparté, mais c'est une parenthèse. Mais je regrette quand même que. Enfin, on en parlera après, mais il y a des films comme Wall-E, par exemple, je trouve qui sont juste extraordinaires en termes de.
Wall-E qui a gagné le meilleur film d'animation.
Ouais, bah forcément. En termes de scénario, de ce que ça véhicule comme idée, comme. Il y a même un point
vrai.
De vue fort dans un film comme Wall-E, en fait. Il y a un vrai point de vue, et d'ailleurs, je trouve que il y a pas mal de choses qui se réalisent et qui ont été prédites dans Wall-E. Pas forcément pour le meilleur pour l'humanité, mais c'est assez impressionnant. Bref, je digresse,
ouais,
mais j'avais envie d'en parler.
Après, bon, on essaie. Moi, je trouve que c'est quand même positif de voir qu'il y a des films d'animation qui sont nommés face à des live action.
Ouais.
On n'est pas à l'abri qu'il y a un génie de l'animation dans quelques années qui remporte un prix.
Bah, je l'espère. Bon, donc, là, c'était vite vu. Pixar a, ouais. Pixar a écrasé, écrasé DreamWorks sur la question des récompenses. Donc, ça fait
égalité, si je ne me trompe pas.
Ça fait égalité, ça fait deux partout.
Et c'est parfait, puisqu'il nous reste le meilleur point, le point le plus intéressant pour les départager.
Et le lendemain, sa critique paraissait.
À bien des égards, la tâche du critique est aisée. Nous ne risquons pas grand-chose. Et pourtant, nous jouissons d'une position de supériorité par rapport à ceux qui se soumettent avec leur travail à notre jugement. Nous nous épanouissons dans la critique négative, plaisante à écrire et à lire. Mais la mère vérité qu'il nous faut bien regarder en face, c'est que dans le grand ordre des choses, le mets le plus médiocre a sans doute plus de valeur que notre critique qui le dénonce comme tel. Il est pourtant des circonstances où le critique prend un vrai risque. C'est lorsqu'il découvre et défend l'innovation. Le monde est souvent malveillant à l'encontre des nouveaux talents et de la création. Le nouveau a besoin d'amis.
Allez, là, c'est le jeu décisif, comme on dit. Il y a deux partout. On veut savoir qui va gagner, même si on le sait déjà un petit peu. Et on voudrait savoir qui a fait les meilleurs films. Alors d'abord, selon la critique, rapidement, et puis après, selon les deux experts les plus qualifiés dans cette salle, c'est-à-dire toi et moi.
De toute façon, on n'est que deux, c'était forcément nous.
Il y a le chat aussi, on en a vu pas mal.
Alors, on va commencer par la critique. Donc, je me suis basée sur deux classements qui n'ont rien à voir. Donc, c'est ça qui est assez intéressant.
Ouais, c'est vrai.
On commence par le classement des 100 meilleurs films de l'histoire, de tout,
voilà.
Par Télérama.
Qui est une noble institution.
Qui est une noble institution qui s'intéresse énormément à l'animation, ouais. Comme chacun le sait.
Non, c'est vrai. Non, mais en plus, c'est vrai. Pour le coup, c'est vrai.
Et donc, dans ce classement des 100 meilleurs films de l'histoire, enfin de l'humanité, on retrouve deux films d'animation. Donc, il y en a un, c'est un Disney. C'est Blanche-Neige et les Sept Nains qui est à la 100e place.
Ouais.
Et l'autre, c'est un Pixar. D'accord. C'est Ratatouille qui est à la 67e place.
Ok.
Et ensuite, on a le classement des 300 meilleurs films de l'humanité. selon les spectateurs d'Allociné.
Qui est une autre noble institution.
Si vous avez écouté le dernier épisode qu'on a enregistré ensemble, vous savez que j'aime beaucoup les classements spectateurs Allociné.
On accorde beaucoup de valeur à Allociné.
Et là, en sixième place, là, clairement, Pixar trust, en termes d'animation, trust le classement. En numéro 6, on a Coco. En 59, on a Toy Story 3. En 64-66, c'est Dragon et Dragon 2. En 80, on retrouve Dragon 3. Et puis après, on est reparti sur une totale Pixar. 94, Vice-Versa. 122, Les Indestructibles 2. 124, Wall-E. 128, Là-haut. 182, Ratatouille. 293, Toy Story. Donc Pixar apparaît 8 fois et DreamWorks n'apparaît que 3 fois dans ce classement.
Bon, voilà. Mais c'est dit. Moi, j'ai un autre indicateur à partager. C'est le site Metacritic qui, comme son nom l'indique, agglomère des critiques de différentes sources. Et ils ont fait... Alors, ça date un peu, ça date de 2011, mais bon, je pense que c'est toujours d'actualité. Ils avaient fait une moyenne, en fait, des notes des films de Pixar et des notes des films de DreamWorks. Pixar arrivait à une moyenne de 87% contre 65% pour DreamWorks. Voilà.
Là encore, la messe est dite.
Voilà. Donc bon, désolé DreamWorks, hein, en termes de critiques, c'est Pixar qui gagne.
Ouais, ça c'est sûr.
Est-ce qu'on va surprendre tout le monde et dire que Pixar a fait des meilleurs films que DreamWorks ? Qu'est-ce que t'en penses, toi ?
Je crois qu'on va pas trop surprendre tout le monde. Mais avant qu'on parle de nos avis respectifs, je voulais attirer ton attention et l'attention des auditeurs sur ce point. C'est que dans ces deux façons de voir les choses qui sont totalement différentes, DreamWorks, dès le début du studio, prend totalement le contre-pied de Pixar, surtout de Disney, mais du coup aussi de Pixar et toutes les valeurs qu'on attend dans un dessin animé. Le partage, la mise en valeur de la famille, le courage, enfin toutes ces belles valeurs qu'on apprend aux enfants, et c'est pour ça que les enfants regardent des dessins animés. En fait, on les retrouve moins ou à contre-pied dans les DreamWorks. Et ça, c'est un positionnement qui marche bien quand même. Pour eux en termes de box-office, etc. Et c'est ça qui les différencie aussi énormément de Pixar. Je pense aussi que c'est peut-être pour ça que les personnages de DreamWorks sont plus drôles, plus décalés. Par exemple, le lion de Madagascar, on voit pas du tout ce type de personnage dans les Pixar. Le lion de Madagascar, il devient vegan sur les bons conseils des pingouins, je crois. Dans l'histoire, ça arriverait jamais dans un Pixar. Les personnages sont beaucoup moins ou tout noir ou tout blanc, du coup, beaucoup moins polarisés, et puis beaucoup plus cyniques, je trouve.
Oui, ouais, tout à fait.
Et ça, c'est vraiment un choix de leur part de prendre le contre-pied de l'animation traditionnelle.
C'est, comme on le disait, beaucoup plus référentiel, beaucoup plus...
Beaucoup plus à double niveau de lecture.
Et par contre, beaucoup moins intemporel, par contre.
Aussi.
Ça, c'est l'inconvénient, c'est que comme ils sont partis sur des choses qui sont très, très circonstanciées, ça vieillit plus vite, je pense.
Beaucoup plus clivant aussi, que du coup les films de Pixar.
Mais effectivement, dans DreamWorks Animation, on retrouve beaucoup d'anti-héros.
Oui, ils font pas mal de... du ugly but cute, c'est-à-dire de personnages moches mais attachants. Moches mais mignons, donc Shrek... Par exemple, c'est tout à fait le stéréotype du personnage DreamWorks qui est moche, vraiment, qui est pas beau à regarder, mais qui est une bonne patte, quoi, qui est bon caractère. Donc, au fur et à mesure de ses aventures, on s'attache quand même à ce personnage.
Ouais. Et après, c'est un peu justement le problème de beaucoup de personnages de DreamWorks Animation, c'est que ils partent de personnages qui sont censés être attachants parce que c'est des anti-héros ou même des méchants, mais ils peuvent pas aller au bout du truc, donc à la fin ils finissent quand même par être gentils, en fait, et c'est ça aussi qui... C'est ce qui fait que
Le boss baby, il finit pas par être gentil, lui.
Si, je crois que dans le film il finit par être gentil, je l'ai pas vu, mais d'après le débrief que j'ai eu par mon expert de 8 ans,
en tout cas.
Il finit par être gentil, mais bon, ouais, c'est vrai qu'ils sont effectivement ils ont l'intelligence de se démarquer en proposant des univers différents. Et justement, je trouve que il y a une franchise au sein de DreamWorks qui se différencie complètement, c'est Dragon. Et Dragon est hyper intéressant parce que justement, il y a beaucoup la frontière entre le blanc et le noir, les bons et les méchants, est plus compliquée. Et il y a beaucoup de choses, je trouve, hyper, hyper intéressantes dans Dragon. Le fait qu'ils n'hésitent pas à estropier le personnage principal. Le fait qu'il y ait des personnages importants qui meurent. Le fait que les dragons soient vraiment présentés comme des... comme des bêtes malfaisantes au début, puis qu'on arrive à aller au-delà de ça, mais on y va petit à petit, en fait, partout. C'est ça que je trouve super intéressant dans Dragon. C'est hyper intéressant. Enfin,
mais du coup, c'est beaucoup moins accessible aux plus jeunes, alors que j'ai le sentiment que les films de Pixar sont vraiment... chacun y trouve son compte, les adultes, les ados, comme les parents, peuvent apprécier un Pixar.
Justement, c'est ça qui est formidable avec Pixar, c'est que c'est quasiment que de la douceur. Mais sous cette douceur, ils arrivent quand même toujours à exprimer des choses super fortes.
Alors qu'un DreamWorks va pas forcément plaire à tout le monde. Enfin,
ouais, complètement. Ouais.
Ne serait-ce que moi, je repense aux films de DreamWorks que j'ai vus, les Shrek, Mais je mets un peu à part leur collaboration
avec Hardman. Ouais. Ouais.
Mais du coup, Shrek, Madagascar, Kung Fu Panda aussi. Bon, j'ai le souvenir d'avoir passé un bon moment, mais déjà, j'avais déjà au moins 12 ans quand c'est sorti. J'ai le souvenir d'avoir bien ri, mais pas forcément plus que ça. Mmh. Alors que les films de Pixar que j'ai vus, c'est l'exemple que je cite tout le temps, mais Vice-Versa, je le reverrai mais avec plaisir aujourd'hui. Ratatouille aussi, c'est un film, je pense que si je le re-regarde aujourd'hui, j'apprécierai autant que quand je l'ai vu quand il est sorti. Monstres et compagnie et Monstres Academy, c'est génial. Et là encore, on l'apprécie autant à 25 ans qu'à 15 ans, qu'à 7. Donc ça c'est vraiment une qualité Pixar. Et le dernier que j'ai vu, c'est Toy Story 4 au cinéma. Et j'étais avec une amie qui m'a dit « T'as rigolé plus fort que tous les enfants dans la salle. » Et ouais, j'ai vraiment le... Enfin, j'ai vraiment mes...
Moi, j'ai explosé de rire avec les... Alors, ça prend un contre-pied ce que je disais tout à l'heure. Mais avec les pantins tirés de la quatrième dimension.
Je vois pas du tout. Mais j'ai vraiment passé un trop bon moment. Ouais. Alors que pour le coup... De base, j'apprécie pas trop, c'est pas le genre de film vers lequel je me tourne, même quand j'ai du temps à perdre. Et vraiment, Toy Story 4, j'ai adoré quoi.
Ce qui est hyper intéressant quand on fait cette comparaison, c'est qu'il y a un aspect technique qui est indéniable et ils sont vraiment forts là-dessus, ils ont été en avance. Mais la technique, ça évolue et un film comme Toy Story, le premier Toy Story, maintenant quand on le regarde, techniquement, il est dur à voir parce qu'il a vraiment, il a pris cher en termes de comparaison avec ce qui sort aujourd'hui.
Ah la technologie, elle a avancé tellement vite que.
Mais l'histoire reste super intéressante et ils ont cette capacité à raconter des histoires universelles et qui vont continuer à être intéressantes des années plus tard. Ouais. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire et c'est incroyable de la part d'une société comme Disney qui... Disney, c'est quand même une multinationale qui est pas là pour enfiler les perles. Hein. Ils sont plutôt là pour enfiler les millions de dollars que de faire de la philanthropie. Mais ils ont quand même... ils sont quand même capables de encore sortir des choses qui vont sortir des sentiers battus et... Ouais.
Et en tout cas, les studios Pixar, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ils prennent vraiment le temps de travailler sur chaque film, sur chaque univers. Ils prennent vraiment le temps de peaufiner chaque détail de leur œuvre et justement, ils l'abordent vraiment chaque film comme des œuvres à part entière. Mmh. Et là, je regardais un peu la liste des films Disney-Pixar. Et ils s'en sortent super bien sur plein de trucs différents. On a Les Mille et Une Pattes, du coup, l'histoire des petites fourmis. Mais ils s'en sortent super bien dans un film de princesse avec Rebelle, même si c'est pas une princesse classique.
Ouais. Non, mais tu fais bien de citer Rebelle, est super intéressant.
Elle fait quand même partie des princesses Disney. Ils s'en sortent super bien dans les films d'animaux, avec Le Voyage de Nemo, dans les films de... où les personnages sont des objets, entre guillemets, Cars. Moi, j'avais bien aimé aussi, j'étais allée le voir au cinéma. Bon, j'étais jeune quand même. Mais...
Non, mais Cars, c'est un exemple intéressant parce que souvent, il est un peu déconsidéré par rapport au reste de la filmo de Pixar.
C'est vrai qu'il est un peu en dessous. Il reste super bien, mais par rapport à d'autres, il est un peu en dessous.
Mais pour un truc enfantin assez basique, il véhicule quand même des valeurs qui sont intéressantes. Et là aussi,
le personnage principal de Flash McQueen.
Il y a une belle fin. Il y a une belle fin sur le premier Cars. Le deuxième est un peu relou, mais et le troisième met l'accent sur le temps qui passe. Et c'est intéressant. Et je trouve ça hyper intéressant de pouvoir expliquer ça à des enfants en fait de manière un peu douce en fait de dire le temps passe et il y a des gens qu'on aime qui disparaissent. Il y a des gens qu'on aime qui sont plus qu'ils étaient avant. Et c'est hyper fort, en fait, de pouvoir dire ça simplement, en fait. Ouais. Je trouve que le summum pour ça, c'est là-haut, en fait. Je pense que on est beaucoup à avoir un peu chialé dans les premières minutes du film. Et dans un film pour enfants, c'est pas évident de... C'est un peu inattendu aussi, un film pour enfants, un film d'animation, de chialer comme ça dès les premières minutes.
Mais même Monstres et compagnie... Ça véhicule pareil, un super truc.
Sur l'enfance, le passage de l'enfance.
C'est ça, mais même sur les compétences de chacun. T'es mauvais dans quelque chose, mais si on retourne un peu la mécanique, tu deviens super bon dans autre chose, parce que du coup, le, je me rappelle plus de son nom, mais la petite boule verte avec un œil,
je sais plus non plus,
qui arrive pas à faire crier les enfants parce qu'il fait pas assez peur.
Ouais.
Et ben bah, en fait, il arrive à les faire rire et il fait encore plus de bruit. Et enfin, je trouve que c'est vraiment des super beaux univers avec des super valeurs, même si ça peut paraître un peu gnangnan. Finalement, c'est aussi ce qu'on cherche dans un film d'animation, de passer un bon moment et de sortir un peu... c'est un peu des feel-good movie, quoi, de sortir un peu rassuré sur l'humanité.
Ouais.
Et ils sont vraiment... non, mais c'est vrai qu'ils ils sont super forts là-dedans, quoi.
Ou pas dans le cas de Wall-E, mais...
Ouais. Et ben voilà, mais... encore un genre hyper différent où ils s'en sortent super bien.
Ah ouais,
ouais. Donc, ils maîtrisent les princesses, les animaux, les voitures, les robots apocalyptiques, les jouets. Enfin, il y a une variété de propositions qui est incroyable. Et qu'on retrouve moins, je trouve, chez DreamWorks.
Ouais. Désolé DreamWorks. Désolé Steven.
Et là, tu t'es fait laminer.
Désolé Steven, mais bon...
Tu t'es bien battu.
Bon, ben voilà, Pixar gagne à la surprise générale.
Ah bah... J'ai même envie de dire gagne par KO, là, c'était...
Ouais, désolé, hein, désolé
DreamWorks. Même si
DreamWorks,
on t'accorde...
Vous êtes bien battu.
Quand même quelques points, mais bon, c'est un beau KO.
Bah merci Aurélie.
Merci à toi.
Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut dire ouais, je suis pas d'accord, DreamWorks aura dû gagner ou des trucs comme ça?
Et bah toujours sur Twitter.
Ouais.
Aurélie, @Aurélie_PSQR.
Ok. Vous pouvez continuer la discussion aussi sur les réseaux sociaux avec le compte Twitter de C'est qui le plus fort.
Oui, battez-vous sur les réseaux sociaux.
Oui, battez-vous sur les réseaux sociaux, même si là je pense que ça va être assez consensuel probablement. Ou sur Facebook, l'Agora de Micro Stockholm, pour discuter. Sur réseaux sociaux aussi, avec ces comptes, on demande régulièrement aux auditeurs déjà s'ils sont d'accord avec le résultat du match, et puis quelles prochaines émissions sont attendues.
Quel prochain combat vous voulez voir?
Ouais, souvent des sondages là-dessus. J'en profite aussi pour dire que vous pouvez soutenir l'émission sur Tipeee, le lien est en description. Votre soutien permettra à l'émission de garder son rythme hebdomadaire, qui est pas mal consommateur en ressources, et d'organiser des enregistrements d'événements publics, ce qui pourrait être assez rigolo, et ça vous permettra d'avoir des belles contreparties. Et ben, il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, un bon après-midi, une bonne matinée.
Un bon film d'animation.
Et un bon visionnage, parce que là, vous avez de quoi faire. Allez, à bientôt.
À bientôt.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.